Elizabeth Guskell, Lady Ludlow. Nouvelle extraite du recueil Autour du sofa et traduite par Henriette Leroux. Chapitre 1. Je suis maintenant une vieille femme, nous dit Miss Marguerite, et les choses sont bien changées depuis ma jeunesse. Ceux qui voyageaient alors n'avaient à leur service que des diligences contenant une douzaine de personnes, et qui mettaient 2 jours pour parcourir l'espace que l'on franchit actuellement en 2 heures. On n'avait la poste que 2 fois par semaine, et dans certaines villes que j'ai habitées jadis, le courrier n'arrivait qu'une fois par mois. Il est vrai qu'à cette époque, c'était de véritables lettres qu'il nous apportait, des lettres précieuses, qu'on relisait avec soin, qu'on étudiait comme un livre, et qu'on gardait toujours. À présent qu'on a le facteur matin et soir, vous n'avez plus qu'un petit nombre de lignes griffonnées à la hâte, et n'ayant aucun sens. Des billets qui, la plupart du temps, ne renferment qu'une ou 2 phrases tellement brèves que les gens bien élevés n'oseraient pas vous les dire. C'est un progrès, dites-vous, et je veux bien vous en croire. Toujours est-il que vous ne trouveriez pas aujourd'hui une seule Lady Ludlow. Je vais essayer de vous parler d'elle, mais, ainsi que je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas une histoire suivie que je vais vous raconter. Je suis la fille d'un pauvre ecclésiastique, dont les enfants étaient nombreux. Ma mère était de noble origine. Quand elle voulait maintenir son rang et faire preuve de noblesse parmi les gens avec qui elle était forcée de vivre, de riches manufacturiers démocrates, partisans de la Révolution française, elle mettait une paire de manchettes, garnie d'un vieux point d'Angleterre excessivement usé, mais dont tout l'or du monde n'aurait pu acheter le pareil, car le secret de sa fabrication était perdu depuis longtemps. Ces manchettes prouvaient, comme le disait ma mère, que ses ancêtres avaient eu de la naissance, tandis que les grands-pères de ces riches négociants qui la regardaient avec mépris n'avaient jamais été nés, si toutefois ces vilains avaient eu des grands-pères. Je ne sais pas si, en dehors de notre famille, quelqu'un a jamais fait attention à ces fameuses manchettes. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on nous avait élevés dans un sentiment de vénération pour elles, qu'on nous avait appris à ressentir une juste fierté quand elles ornaient les bras de ma mère, et qu'alors nous relevions la tête comme il convenait aux descendants de la noble dame qui, la première, avait possédé cette illustre dentelle. Mon père nous disait bien que l'orgueil était un grand péché. Il nous enseignait généralement à pratiquer l'humilité chrétienne, et la seule chose dont il nous fut permis de nous enorgueillir était ces vénérables manchettes. Ma mère se trouvait d'ailleurs si heureuse quand elle avait l'occasion de les porter, souvent hélas avec une robe de velours dont on voyait la corde, que même aujourd'hui, après la triste expérience que m'ont laissée les années, je les considère toujours comme un bienfait pour la famille. Vous pensez que je m'égare et que nous voilà bien loin du sujet de mon histoire? Pas du tout. Ursule Hanbury, l'honorable dame à qui les manchettes avaient appartenu d'abord, était à la fois la trisaïeule de ma mère et celle de Lady Ludlow. C'est pourquoi, lorsque mon père vint à mourir, laissant 9 orphelins sans fortune, Lady Ludlow adressa, en réponse au cri de désespoir de la veuve, l'offre de venir à son secours pour élever sa famille. Je vois encore la lettre de Milady. Une grande feuille de papier jaune, épais et raboteux, avec une marge bien alignée, une belle écriture ronde qui, en dépit de sa grosseur, faisait tenir plus de mots dans le même carré de papier que les pattes de mouche imperceptibles des jeunes filles de nos jours. Le cachet portait un écusson en losange, car Milady était veuve. Ma mère nous en fit remarquer la devise « Foi et loi » et nous montra les armes d'Henbury, dont celles des Ludlow étaient écartelées. J'imagine qu'elle redoutait le contenu de cette lettre et qu'elle se donnait un prétexte pour en retarder la lecture. Dans sa sollicitude pour nous, elle avait écrit à une foule de personnes afin de réclamer leur protection. Et la froideur, la dureté des réponses qu'elle avait reçues lui avait fait verser bien des larmes. Je ne crois pas qu'elle eût jamais vu Lady Ludlow. Quant à moi, tout ce que je savais de Milady, c'est qu'elle appartenait à la haute aristocratie, et que son arrière-grand-mère avait été la sœur consanguine de notre trisaïeul du côté maternel. Je regardai par-dessus l'épaule de ma mère, et je vis que la lettre débutait par ces mots. « Bien chère cousine !» Il me sembla qu'on pouvait espérer, du moment qu'elle employait ces paroles. La suite de la lettre prouva que j'avais raison. « Bien chère cousine !» disait donc Lady Ludlow. « J'ai appris avec beaucoup de chagrin la perte que vous avez faite par la mort d'un aussi bon mari, d'un ecclésiastique aussi parfait que l'a toujours été mon cousin Richard Dawson. » « Tiens, » dit ma mère en mettant le doigt sur ce passage, « lis tout haut ces quelques lignes, afin que les enfants apprennent combien la réputation de leur père était grande, pour qu'une personne qui ne l'a jamais vue puisse en parler en ces termes. « Cousin Richard, comme sa seigneurie écrit bien, continue Marguerite. » Elle s'essuya les yeux et mit un doigt sur ses lèvres pour imposer silence à ma petite sœur Cécile, qui, ne pouvant pas comprendre l'importance de la lettre, commençait à jaser. « Vous restez avec 9 enfants, écrivait Milady. J'en aurais également 9 si tous les miens vivaient encore, mais je n'ai plus que mon Rudolf, qui est à présent Lord Ludlow. Il est presque toujours à Londres ou en voyage, et il est assez rare que je jouisse de sa présence. Mais j'ai pris avec moi, au château d'Anbury, que j'habite, 6 jeunes personnes bien nées, que je considère comme mes filles, excepté que je ne leur permets pas un certain luxe de table et de toilette qui conviendrait à une position de fortune supérieure à celle de leur famille. Ces jeunes personnes, qui sont toutes de condition malgré leur peu de fortune, ne me quittent presque jamais, et je fais tous mes efforts pour remplir à leur égard les devoirs d'une femme chrétienne. L'une de ces jeunes filles est morte au mois d'avril, pendant une visite qu'elle faisait à ses parents. Voudriez-vous m'accorder la faveur de permettre à votre fille aînée de la remplacer auprès de moi ? Je me charge de l'entretien de mes jeunes compagnes et leur donne tous les mois une petite somme comme argent de poche. Elles ont peu l'occasion de s'établir, Anbury se trouvant fort loin d'une ville quelconque. Notre ecclésiastique est vieux et sourd, et mon régisseur est marié. Quant aux fermiers des environs, ils ne sont pas faits pour attirer les regards des jeunes filles placées sous mon patronage. S'il arrive néanmoins que l'une d'elles trouve un parti qui lui convienne et que je sois satisfaite de sa conduite, je me charge du repas de noces et du trousseau, que je lui donne au grand complet. Celles qui resteront avec moi jusqu'à ma mort seront assurées par mon testament d'une pension qui leur permettra de vivre d'une manière convenable. Je me réserve de payer les voyages qu'elles peuvent avoir à faire, ne voulant pas qu'elles en entreprennent d'inutiles, et désirant, d'un autre côté, ne pas affaiblir les liens de famille par une trop longue absence de la maison paternelle. Si mes propositions vous conviennent, je ne parle pas de votre fille, je la suppose trop bien élevée pour avoir une volonté différente de la vôtre, faites-le-moi connaître, chère cousine Marguerite, et je m'arrangerai pour faire prendre la jeune personne à Cavistock, où la diligence la déposera. » Ma mère laissa tomber la lettre et finit par dire au bout de quelques instants « Je ne sais pas ce que je deviendrai sans toi, Marguerite. » Jusqu'ici, la pensée de changer de place, d'embrasser un nouveau genre de vie, m'avait paru fort agréable, mais quand je vis le regard douloureux de ma pauvre mère et que j'entendis pleurer les enfants, je renonçai bien vite à l'existence qui m'était proposée. « Non, » reprit ma mère en secouant la tête, « il vaut mieux que tu t'en ailles. Lady Ludlow est toute puissante, elle pourra placer tes frères, et nous ne devons pas la désobliger en refusant tout d'abord ce qu'elle veut bien nous offrir. » Après y avoir mûrement réfléchi, cette décision fut confirmée. Nous acceptâmes les offres qui nous étaient faites, et c'est ainsi que je fis connaissance avec Lady Ludlow. Je me rappelle mon arrivée au château d'Anbury, comme si c'était hier. La malle-poste m'avait déposé dans la ville où je devais m'arrêter. « N'êtes-vous pas Miss Dawson, et n'allez-vous pas à Anbury Court ? Un vieux domestique vous attend, » me dit l'aubergiste, qui me toisa des pieds à la tête. Je compris alors ce qu'il y avait de pénible à se trouver tout à coup au milieu d'étrangers, et il me fallut tout mon courage pour ne pas défaillir lorsque je perdis de vue la personne à qui j'avais été confié par ma mère. Je fus enfin perché dans une espèce de cabriolet qu'on appelait alors une chaise, et nous traversâmes, mon compagnon et moi, le pays le plus champêtre que vous ayez jamais vu. Arrivés au bas d'une montée assez longue, mon conducteur mit pied à terre et marcha près de son cheval. J'aurais voulu en faire autant, mais je n'osais pas demander à ce brave homme de m'aider à descendre, et je restai dans la voiture. En haut de la côte se trouvait une grande plaine balayée par le vent et qu'on nommait la chasse. Le vieux groom s'arrêta, reprit haleine, caressa son cheval en lui frappant sur le cou et vint se remettre à côté de moi. « Sommes-nous bientôt arrivés ? » lui demandai-je. « Eh bien, oui, miss, nous avons encore une dizaine de milles à faire. » Une fois la conversation entamée, elle ne s'arrêta plus. J'imagine que le pauvre homme avait été comme moi et n'avait pas osé rompre le silence. Mais il domina sa timidité plus aisément que je ne triomphais de la mienne, et c'est lui qui se chargea d'alimenter l'entretien. J'eus alors des récits interminables dont il m'était impossible de comprendre l'intérêt. Par exemple, celui d'une chasse que lui avait donnée un certain chien courant dont il avait été poursuivi. Il y avait de cela 30 et quelques années. Chasse qu'il me racontait en me signalant tous les couverts, tous les détours de l'endroit où elle avait eu lieu, comme si la topographie m'en avait été connue, et je m'étonnais de cette épithète de courant qu'il donnait au chien en question, ne voyant pas que la faculté de courir fût, chez une bête de cette espèce, un caractère distinctif dont il fallut tenir compte. La route devint de plus en plus mauvaise au sortir de la plaine. Il n'est personne aujourd'hui qui, n'ayant pas vu les chemins qu'on avait il y a 50 ans, puisse s'en faire une idée. C'est tout au plus si notre bête parvenait à nous sortir des ornières profondes où notre gigue était logée, suivant l'expression du vieux Rendall. Et je ne voyais plus rien autour de moi, tant j'étais préoccupé de me retenir à la banquette pour ne pas être lancé au dehors par les chaos épouvantables qu'il nous fallait subir. J'aurais bien fait la route à pied, mais j'aurais eu de la boue jusqu'à mi-jambe, et il était impossible de se présenter dans un pareil état devant sa seigneurie, que j'aurais scandalisé. Nous finîmes enfin par aborder au milieu d'un pâturage où, ayant la perspective de marcher à pied sec, je priai Rendall de m'aider à sortir de voiture, ce qu'il fit avec joie par pitié pour sa bête dont la robe était fumante. Le pâturage descendait graduellement jusqu'à un bas-fond qui se déployait entre deux rangées d'ormes séculaires, indiquant sans doute qu'une avenue avait existé jadis à l'endroit où il s'élevait. Ce n'était plus aujourd'hui qu'une gorge remplie d'herbe où nous entrâmes au coucher du soleil. Tout à coup, je me trouvai en face d'une certaine quantité de marches qui m'arrêtèrent et me firent tourner les yeux vers mon guide. « Si vous voulez bien descendre l'escalier, me dit Rendall, je vais faire le tour et je vous reprendrai en bas. Madame serait mécontente si vous n'arriviez pas en voiture. » « Est-ce que nous sommes près du château ? » m'écriai-je toute suffoquée en y pensant. « Ne le voyez-vous pas là-bas ? » me répondit mon compagnon, en désignant avec son fouet un groupe de cheminées armoriées qui détachaient leurs silhouettes brunes sur le fond rouge du ciel et qui se trouvaient de l'autre côté d'une grande pelouse carrée, située au bas de la pente rapide que j'avais à descendre. Rendall s'éloigna. Je le retrouvai au bas de l'escalier, où je remontai dans le gig. Nous prîmes un chemin détourné qui nous conduisit à la grille, et nous entrâmes dans la cour d'honneur. Le château d'Enbury est un vaste édifice. Bâti en briques et en pierre dans le style de Hampton Court, les pignons élevés, les portails en plein cintre et les meneaux en pierre de taille que l'on remarque derrière le corps de logis principal indiquaient, suivant Lady Ludlow, que c'était autrefois un prieuré. On voit encore le parloir du prieuré que nous appelions tout bonnement la chambre de Mistress Medlicote. De plus, une énorme grange où l'on mettait la dîme et qui est aussi haute qu'une église. Enfin, une série de viviers où les moines trouvaient du poisson pour le carême et pour tous les jours maigres. Mais je ne vis pas cela tout d'abord. À peine si en arrivant, j'aperçus l'admirable Bignonia qui, disait-on, avait été plantée par l'un des ancêtres de Lady Ludlow et qui couvrait la façade. J'éprouvais à quitter Randall autant de chagrin que j'en avais eu à me séparer de mon chaperon de la diligence. C'était un ami de 3 heures, le seul que j'eusse dans la maison. Il fallait néanmoins s'y résigner, entrer dans le château, passer devant le majestueux valet de chambre qui, debout, auprès de la porte, la tenait ouverte à 2 battants. Franchir la grande salle à droite du vestibule, suivre le vieux gentleman qui, pris à gauche, traversa plusieurs salons, donnant sur un magnifique jardin rempli de fleurs, et monta 4 marches en sortant d'une antichambre qui suivait le dernier salon. Enfin, mon guide écarta une lourde portière de soie et je me trouvai tout à coup en face de sa seigneurie. Lady Ludlow était de fort petite taille, mais elle n'en perdait pas une ligne. Elle portait un bonnet de dentelle d'une dimension démesurée qui lui couvrait la tête sans descendre le long des joues. Ceux qui attachent sous le menton ne furent à la mode que plus tard. Nous les appelions des populaires, et Milady, qui les méprisait souverainement, prétendait qu'on ne devait les mettre que pour aller se coucher. Une fontange de satin blanc fixait la coiffure de Lady Ludlow, dont la toilette se composait d'un beau fichu de mousseline de l'Inde, croisé sur la poitrine, d'un tablier pareil au fichu, d'une robe de soie noire avec des manches plates et courtes, à manchettes de dentelle. La jupe, très ample et à queue, était relevée dans l'ouverture de la poche, de manière à faciliter la marche et laisser voir un jupon quadrillé en satin lilas. Sa seigneurie avait les cheveux blancs comme la neige, et presque entièrement cachée par son bonnet. Malgré son âge, elle avait la peau fine et blanche, de grands yeux d'un bleu foncé qui devaient avoir été superbes, et ce qu'elle avait eu de mieux dans la figure, car le nez et la bouche n'avaient rien de particulier. Une canne à pomme d'or était à côté de son fauteuil, mais c'était moins pour en faire usage que comme insigne honorifique. Elle ne s'en servait jamais que dans les grandes occasions et parcourait le château et les jardins toutes les fois qu'elle était seule, d'un pas aussi léger, d'une allure aussi vive qu'une jeune fille de 15 ans. Milady était debout lorsque je fus introduite auprès d'elle. Je fis en entrant la révérence que ma mère m'avait apprise comme faisant partie d'une bonne éducation, et je m'approchai de sa seigneurie. Au lieu de me tendre la main, elle se leva sur la pointe de ses petits pieds et m'embrassa sur les 2 joues. « Vous avez froid, » dit-elle, « mais un peu de thé vous réchauffera. Nous allons en prendre ensemble. » Elle agita une petite sonnette qui se trouvait sur la table. Une femme de chambre arriva, prit les ordres de sa maîtresse et reparut quelques instants après avec 2 petites tasses de porcelaine de Saxe remplies de thé qui sans doute nous attendaient et quelques tartines de beurre d'une délicatesse désespérante. J'en aurais mangé la totalité sans me rassasier, le moins du monde, tant ce voyage au fond des ornières avait aiguisé mon appétit. La femme de chambre s'empara de mon manteau. J'allais m'asseoir tout effrayé du silence de cette femme qui allait et venait sans qu'on entendît ses pas. Et déconcerté par la voix douce, la parole nette et facile de Milady, je laissai tomber ma petite cuillère dans ma soucoupe. Il en résulta un son aigu, tellement inconvenant que j'en devins rouge jusqu'aux oreilles. Sa seigneurie leva les yeux. Nos regards se rencontrèrent. Elle comprit mon embarras. « Vous avez les doigts glacés, » dit-elle d'un air affable. « Ôtez vos gants, chère petite. » De bons gros gants, en peau de daim, que je n'avais pas osé défaire sans y être invité. « Les soirées sont très froides, » ajouta sa seigneurie, « mais je vais vous réchauffer. » Elle prit mes grandes mains rouges dans les siennes, qui étaient mignonnes, blanches et douces, et couvertes de bagues éblouissantes, puis me regardant d'un air pensif. « Pauvre enfant, » reprit Lady Ludlow, « 9 orphelins dont vous êtes l'aîné. J'aurais une fille qui serait précisément de votre âge. Il m'est impossible de me la figurer dans la même position. » Elle resta silencieuse pendant quelques minutes, puis elle appela Mistress Adam, celle de ces femmes qui étaient spécialement attachées à son service, et la pria de me conduire dans ma chambre. Je crus entrer dans une cellule, tant cette pièce était petite. Les murailles en étaient passées à la chaux. Un lit, drapé de basin, 2 chaises et deux tapis rouges en composaient l'ameublement. L'armoire et le lavabo se trouvaient à côté, dans un cabinet minuscule. Il y avait sur la muraille, en face du lit, quelques versets de l'Écriture sainte. Au-dessous pendait une gravure assez commune alors, représentant le roi Georges et la reine Charlotte avec leurs nombreux enfants, y compris la petite princesse Amélie dans son chariot. D'un côté de cette gravure était le portrait de Louis XVI, faisant pendant à celui de Marie-Antoinette. Une petite boîte et un livre de prières garnissaient la cheminée. Je ne me rappelle pas qu'il y eût autre chose dans ma cellule. Personne ne songeait à cette époque aux bureaux, aux guéridons, aux chiffonnières, aux écritoires, aux fauteuils indispensables de nos jours, et l'on allait dans sa chambre que pour y faire sa toilette, y prier et dormir. On m'appela pour souper. Je descendis avec la jeune fille qui était venue m'avertir et qui me conduisit dans la grande salle que j'avais traversée en arrivant. J'y trouvai mes autres compagnes, debout et silencieuses, et qui, lorsque j'ouvris la porte, me firent la révérence. Leur costume, qui me parut être une espèce d'uniforme, se composait d'un bonnet à ruban bleu, d'un fichu croisé en mousseline unie, d'un tablier de linon et d'une robe de laine couleur tabac d'Espagne. Je vis sur la table deux poulets froids, une salade et une tarte aux fruits que l'on nous destinait. Le fond de la pièce était occupé par un dais surmontant une estrade où l'on arrivait par quelques marches et où l'on voyait sur un guéridon un pot au lait en argent, une tasse et un petit pain. Près du guéridon était un fauteuil en bois sculpté dont le dossier blasonné portait une couronne de comte. Je pensais en moi-même que ces demoiselles auraient bien pu m'adresser la parole, mais chacune était fort timide, et je ne l'étais pas moins. D'ailleurs, je venais à peine d'arriver par la petite porte que sa seigneurie entra par une autre, qui était à côté de l'estrade. Nous lui fîmes une profonde révérence. Elle resta debout et me présenta à mes compagnes en leur recommandant de me faire un bon accueil. Je fus dès lors traité avec la politesse obligeante que l'on doit à une étrangère, toutefois sans qu'on me parlât d'autre chose que de ce qui avait rapport au souper. Lorsque nous eûmes fini de manger la tarte et qu'on eût dit les grâces, des domestiques vinrent enlever ce qu'il y avait sur la table et apportèrent un grand pupitre qu'ils posèrent à côté du fauteuil de Milady. Toutes les personnes de la maison se rassemblèrent autour de l'estrade. Sa seigneurie appela l'une de mes compagnes qui s'approcha du pupitre où une Bible avait été placée, et la jeune fille lut les psaumes indiqués par le rituel. Je me souviens de m'être dit en moi-même combien j'aurais tremblé s'il m'avait fallu être à sa place. Il n'y eut pas la moindre prière. C'était aux yeux de Lady Ludlow une hérésie coupable que de prier en dehors de l'office. Elle aurait mieux aimé faire elle-même un sermon à l'église paroissiale que de permettre à un laïc de débiter des prières dans une maison. Je ne suis pas bien sûr qu'elle l'eût toléré de la part d'un ecclésiastique en dehors du lieu saint. Lady Ludlow avait été jadis fille d'honneur de la reine Charlotte. Elle était le dernier rejeton de cette vieille souche des Hanbury, si florissante du temps des Plantagenets, l'héritière de ceux qui restaient aujourd'hui du patrimoine de cette famille, dont les domaines s'étendaient autrefois dans quatre comtés différents. Et c'était de son propre chef qu'elle possédait Tunbury Court. Après son mariage, elle avait habité tour à tour les différents manoirs de Lord Ludlow. Elle y avait perdu tous ses enfants, à l'exception d'un seul. Et ses tristes souvenirs devaient lui faire désirer d'autant plus de rentrer dans le château de ses ancêtres. J'imagine que les années de sa jeunesse avaient été l'époque la plus heureuse de sa vie, car la plupart de ses opinions, au moment où je l'ai connue, était celle qui prévalait 50 ans auparavant. Ainsi, lorsque j'arrivais chez elle, on commençait à se préoccuper de l'éducation du peuple. M. Raikes avait établi ses écoles du dimanche, et certains ecclésiastiques demandaient qu'on y apprît non seulement à lire, mais encore l'écriture et le calcul. Lady Ludlow n'acceptait rien de tout cela. Elle ne voulait pas même en entendre parler. C'était du nivellement. Cela frisait la révolution. Une jeune personne devait-elle entrer à son service, Milady la faisait venir dans sa chambre, examinait sa figure, ses habits, et l'interrogeait sur ses parents. Elle attachait à ce dernier point une importance capitale. Une jeune fille, disait-elle, qui reste indifférente lorsqu'on lui témoigne de l'intérêt ou de la curiosité à l'égard de sa mère ou des marmots de la famille, ne fera jamais un bon serviteur. Puis elle regardait la manière dont la pauvre créature était chaussée, lui faisait réciter le credo, l'oraison dominicale, et lui demandait enfin si elle savait écrire. La réponse était-elle affirmative qu'en dépit de la satisfaction qu'elle avait exprimée jusqu'alors, la figure de Lady Ludlow s'allongeait tout à coup. C'était pour sa seigneurie un grand désappointement, une vive contrariété. Mais elle s'était faite une règle invariable de ne jamais prendre un domestique sachant écrire. Deux fois cependant, malgré cette faute irrémissible, je lui ai vu poursuivre l'examen et soumettre la postulante à une épreuve extraordinaire en lui faisant répéter les 10 commandements de Dieu. Malheureusement, une de ces pauvres filles, dont la mine éveillée était déjà un grand tort, après avoir répondu de la manière la plus satisfaisante, perdit tout à coup ses avantages en disant avec assurance, après avoir terminé son 10e commandement, « S'il plaisait à Milady, je pourrais lui faire une addition. Je connais bien mes 4 règles. » « Une addition, malheureuse. Sortez d'ici bien vite !» lui fut-il répondu. « Vous pouvez entrer dans le commerce, mais vous ne sauriez me convenir en qualité de domestique. » La jeune fille, qui plus tard épousa un riche drapier de Shrewsbury, s'en alla toute confuse. À peine avait-elle fermé la porte que je fus prié d'aller la rejoindre et de lui faire servir à goûter. Quelques instants après, Milady fit revenir la pauvre créature, mais c'était uniquement pour lui donner une Bible et pour l'avertir de se mettre en garde contre les principes révolutionnaires qui avaient conduit les Français à couper la tête du roi et celle de la reine de France. « Je vous assure, Milady, balbutia la jeune fille, que je ne ferai pas de mal à une mouche, encore bien moins au roi, et que je ne peux souffrir ni les Français ni les grenouilles. » Mais Milady fut inexorable et prit une servante qui savait à peine compter ses 10 doigts, afin de protester contre les progrès que l'arithmétique faisait chaque jour parmi les masses. Quand un peu plus tard, le recteur de la paroisse étant mort fut remplacé par un jeune ecclésiastique imbu des idées nouvelles, le développement de l'éducation populaire fut l'un des points sur lesquels sa seigneurie et le jeune ministre ne purent jamais s'entendre. À l'époque où vivait M. Montfort, ce bon vieux sourd qui dirigeait la paroisse lorsque j'arrivais au château, Milady ne manquait jamais, quand elle n'était pas d'humeur à écouter le sermon, de s'avancer jusqu'à la porte de son énorme banc et de dire au prêtre, en l'instant où celui-ci allait monter en chaire, « Ne vous donnez pas la peine de prêcher, monsieur Montfort, je vous en dispense pour aujourd'hui. » Et tout le monde s'agenouillait pour entonner l'ancienne avec la plus vive satisfaction, y compris monsieur Montfort, qui savait à quoi s'en tenir, malgré sa surdité. Car il ne manquait jamais, à cet endroit de l'office, de tourner les yeux du côté de sa seigneurie, dont il épiait les moindres gestes. Mais M. Gray, le nouvel ecclésiastique, était d'une patte bien différente. Plein de zèle dans l'exercice de ses fonctions, il fut d'abord au mieux avec Lady Ludlow, qui, très charitable envers les pauvres, ne tarissait pas en éloges sur les vertus du jeune prêtre. Son arrivée était pour la paroisse une véritable aubaine, et il pouvait faire demander au château, sans crainte de jamais être refusé, tout ce qui lui était nécessaire pour ses malades, bouillon, bon vin, confiture ou sagou. Malheureusement, il avait, comme tant d'autres, enfourché ce fatal dada de l'éducation du peuple, et je vis Milady s'attrister un dimanche où elle avait pressenti, je ne sais à quel propos, qu'il y aurait dans le sermon quelque chose de relatif à l'établissement d'une école. Elle se leva, comme autrefois, ce qu'elle n'avait pas fait depuis 2 ans que M. Montfort n'était plus, et dit au jeune ecclésiastique « Ne vous donnez pas la peine de prêcher, M. Gray. Je vous en dispense pour aujourd'hui. » Mais sa voix était mal assurée, et nous nous agenouillâmes pour les prières du prône avec plus de curiosité que de satisfaction réelle. Effectivement, en dépit de la dispense seigneuriale, M. Gray fit un sermon des plus pathétiques sur la nécessité d'établir une école dans le village. Milady ferma les yeux, fit semblant de dormir et parut ne rien entendre de la prédication dont je pensais néanmoins qu'elle ne perdait pas un mot. Le samedi suivant, j'en acquis la certitude. Elle m'avait emmené faire une promenade en voiture avec une de mes compagnes, et nous étions allés voir une pauvre femme qui était malade depuis 6 mois et qui demeurait au bout de la paroisse. Comme nous sortions du cottage, nous aperçûmes M. Gray qui se dirigeait en toute hâte vers l'endroit que nous quittions. Milady lui fit signe d'approcher. « Vous avez l'air d'avoir très chaud, lui dit-elle. Je vais vous attendre et vous reconduire chez vous. Je suis à vrai dire fort étonné de vous voir à pareil jour aussi loin du presbytère. » M. Gray releva la tête et parut ne pas comprendre. « N'êtes-vous pas juif ? » lui demanda Milady, comme pour expliquer ses paroles. Le fait est que dans ce malencontreux sermon, il avait, en parlant de son école du dimanche, employé le mot « sabbat » pour désigner le jour du Seigneur, ce qui était aux yeux de Milady une preuve de judaïsme. « Le sabbat est le sabbat, » poursuivit-elle, « c'est-à-dire le samedi, le jour du repos chez les Juifs. Quant à moi qui suis chrétienne, je ne connais que le dimanche. » M. Gray sourit et s'inclina. « Personne, » dit-il, « ne sait mieux que sa seigneurie quels sont les devoirs qui permettent d'enfreindre la loi en ce qui concerne le sabbat. Je vais donc sans scrupule visiter la mère Brown. Pardonnez-moi, Milady, je serais désolé de vous retenir plus longtemps. » « Pas du tout, Monsieur Gray. Je vous ramène au presbytère. Allez voir votre malade, je vais pendant ce temps-là faire le tour par Oakfield, et je vous reprends dans 1 heure. » Elle ne voulait pas le troubler dans une bonne œuvre, en lui faisant penser qu'il la faisait attendre. « Un excellent jeune homme, très cher, » nous dit-elle quelques instants après. « Toutefois, soyez-en sûr, je n'en ferai pas moins vitrer mon banc. » Nous ne savions pas ce qu'elle voulait dire, mais nous la prîmes au bout de 8 jours. Les rideaux qui entouraient le banc seigneurial avaient été remplacés par un vitrage ayant environ 2 mètres de hauteur. On entrait par une portière dont les carreaux se manœuvraient comme les glaces d'une voiture. Les vitres étaient baissées pendant l'office, comme autrefois les rideaux étaient ouverts. Mais si par hasard M. Gray proférait le mot « sabbat » ou parlait de son école du dimanche, Milady quittait son fauteuil et relevait la glace avec un bruit significatif. Laissez-moi vous dire à ce sujet quelques mots sur notre jeune ecclésiastique. La présentation au bénéfice d'Enbury appartenait à 2 personnes qui exerçaient leurs droits tour à tour. C'était Lord Ludlow, qui avait fait nommer M. Montfort, dont les connaissances profondes en équitation avaient mérité son suffrage. À vrai dire, l'habile écuyer ne fut pas un mauvais prêtre, surtout pour son époque. Il s'enivrait rarement, bien qu'il aimât la table autant que personne au monde, et ne manquait jamais d'envoyer à ceux des pauvres qui étaient malades les meilleurs plats de son dîner, au risque de les faire mourir d'indigestion. Rempli de bonté pour tous les hommes, il ne se montrait sévère qu'à l'égard des dissidents, surtout des méthodistes, contre lesquels il ressentait une haine particulière. Et il se liguait avec Milady pour les expulser de la paroisse. On prétend que John Wesley avait critiqué son amour pour la chasse et que telle était l'origine de cette animosité, si peu en rapport avec son indulgence habituelle. Du reste, il y avait longtemps que la chose avait eu lieu. Car, à l'époque où je l'ai connu, il était d'un embonpoint qui ne lui permettait plus de monter à cheval. D'ailleurs, l'évêque du diocèse avait défendu la chasse à tous les membres de son clergé. Pour ma part, je ne crois pas que la morale eût souffert quand le pauvre M. Montfort eût couru les bois de temps à autre avec meute et piqueur. Il mangeait tant et prenait si peu d'exercice que nous entendions souvent parler des colères effroyables où il se mettait contre ses domestiques, le sacristain et son clerc. Il est vrai que ceux-ci n'y faisaient guère attention. L'excellent homme revenait bientôt à lui-même et faisait toujours aux victimes de son emportement un cadeau proportionné à la violence de sa colère. « Que monsieur le curé nous envoie à tous les diables, c'est un shilling qu'il nous donne, » racontait le sacristain qui ne manquait pas de finesse. Tandis que le diable, tout court, est une impatience de vicaire, un misérable mot, qui ne vaut pas plus de 12 sous. Il y avait beaucoup de bon dans ce pauvre M. Montfort. Il ne pouvait supporter ni la souffrance ni la misère des autres, et faisait tout son possible pour les soulager dès qu'il en avait connaissance. mais il avait grand-peur de troubler sa quiétude, et comme la vue des malheureux lui était fort pénible, il savait mauvais gré à ceux qui lui en parlaient. « Que voulez-vous que j'y fasse ? » disait-il un jour à Milady, au sujet d'un pauvre homme qui s'était cassé la jambe. « Je ne peux pas lui raccommoder le tibia, c'est l'affaire du docteur. Quant à le soigner, sa femme s'en acquittera mieux que moi. Je ne pourrai que lui porter le secours de ma parole. » Et j'y perdrais mon éloquence, ce serait de l'hébreu pour lui, sans compter le dérangement que lui occasionnerait ma visite. Il se ferait asseoir dans une posture incommode, changerait de linge et d'habit, et n'oserait pas se donner le soulagement de gronder sa femme, de crier et de jurer pendant tout le temps que je serai là. Est-ce que votre seigneurie n'entend pas le soupir de satisfaction que pousserait le malheureux une fois que j'aurais tourné le dos? Où serait alors le bénéfice de mes discours? D'autant plus que, suivant lui, j'aurais dû réserver cette exhortation pour son voisin, attendu qu'elle ne pouvait convenir qu'à un pécheur endurci. Je juge des autres par moi-même. Si j'étais malade, il me serait fort désagréable de recevoir Lord Ludlow. Sans aucun doute, ce serait un grand honneur, mais il faudrait changer de bonnet de nuit, simuler la patience et prendre garde de fatiguer sa seigneurie de mes plaintes. Je lui aurais bien plus de gratitude si, au lieu de venir me voir, il pensait à m'envoyer un morceau de venaison, afin de m'aider à recouvrer la dose de santé qui est nécessaire pour jouir convenablement de la visite d'un gentilhomme. J'enverrai donc à John Butler un bon dîner jusqu'à ce qu'il soit guéri, et j'épargnerai à ce pauvre diable ma présence et mes conseils. » Milady ne savait trop que penser des doctrines de M. Montfort, mais c'était son mari qui avait fait choix du révérend, et il était impossible de mettre en doute la sagesse du noble défunt. Elle savait d'ailleurs que John Butler recevait exactement les bons repas dont il avait été question, et qu'une ou deux guinées accompagnaient souvent le potage et le rosbif qu'on lui envoyait du presbytère. Puis M. Montfort était pur jusqu'à la moelle des os. Il avait horreur des dissidents et des Français, et n'aurait pas pris une tasse de thé sans porter un toast à l'Église et au roi, et sans maudire le rump. Le rump, c'est une portion du Parlement qui conserva le pouvoir et s'en servit pour déposer Charles Ier. En outre, il avait eu l'honneur de prêcher devant la famille royale à Weymouth. Le roi avait daigné applaudir son sermon d'un très bien, articulé deux fois ce qui était la consécration d'un mérite dont, après cela, il n'était plus permis de douter. Enfin, pendant tout l'hiver, M. Montfort venait passer au château les longues soirées des dimanches. Il nous faisait une instruction et jouait ensuite au piquet avec sa seigneurie. Lady Ludlow ne manquait jamais en pareille circonstance de le prier, de souper avec elle. Mais comme son repas du soir se composait invariablement d'une tasse de lait et d'un peu de pain, M. Montfort aimait beaucoup mieux partager notre volaille, déclarant que Milady n'était qu'une hérétique, une pécheresse abominable qui faisait maigre le dimanche, jour fêté par l'Église. Nous écoutions cette plaisanterie pour la 20e fois en souriant comme la première. Nous avions même fini par en sourire d'avance, car elle était toujours précédée d'une petite toux nerveuse occasionnée par la crainte que cet excès d'audace ne déplût à Milady, non plus que le recteur ne parut être frappé de la répétition de ce bon mot. Un jour, M. Montfort mourut subitement, et nous laissa de vifs regrets. L'excellent homme léguait une certaine rente aux pauvres de la paroisse afin qu'ils eussent à Noël un rosbif et un plum pudding, dont il donnait la recette dans le codicille de son testament. Il priait en outre ses exécuteurs testamentaires de veiller à ce qu'on ne déposât pas son cercueil dans le caveau réservé au recteur de la paroisse, avant que le sudit caveau n'eût été bien aéré, car il avait toujours détesté les lieux humides. On pensait même que la chaleur excessive qu'il entretenait dans ses appartements, afin de les assainir, avait accéléré sa mort. C'est après cet événement que la cure de notre paroisse avait été offerte à M. Gray, membre du collège de Lincoln. Il était naturel que tous ceux qui, de près ou de loin, appartenaient à la famille Hanbury, désapprouvassent le choix qui avait été fait par l'autre possesseur du bénéfice. Néanmoins, lorsque de mauvaises langues firent courir le bruit que M. Gray était un méthodiste, sa seigneurie déclara qu'elle ne pouvait admettre une accusation aussi grave sans avoir été d'abord convaincu par les preuves les plus incontestables.